Le fait que Dieu a un nom, il n'est pas une force anonyme. Livrer son nom, c'est se faire connaître aux autres. C'est en quelque sorte se livrer soi-même en se rendant accessible, capable d'être connu plus intimement et d'être appelé personnellement. Moi, je pense que c'est intéressant de se dire le fait que Dieu dise son nom, c'est un Dieu personnel. Et en quoi c'est important? Parce que c'est différent de ce qu'on appelle le Dieu des philosophes. Peut-être vous avez entendu cette expression. Quand vous voyez chez Descartes, par exemple, quand vous voyez chez un certain nombre de philosophes du 19e siècle qui parlent de Dieu, mais c'est un Dieu qui est quelque part anonyme, comment on peut dire ça, qui ne dit pas qui il est. Ce n'est pas un Dieu personnel, ce n'est pas un Dieu qui nous parle. Or, nous, nous croyons en un Dieu qui est Père et qui nous parle, qui nous adresse une parole. Et ça, c'est très important. C'est un Dieu qui s'adresse à nous. Tout à fait différent du Dieu des mythologies, par exemple des mythologies païennes. Les mythologies païennes, c'est une forme d'anthropomorphisme où on applique à Dieu, aux divinités, ce qui se passait sur la terre. Hein, et donc, mais il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de lien. Il y avait une réalité transcendante, les mythologies par exemple, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas quelqu'un qui s'adresse à nous. Et évidemment, nous, comme chrétiens, non seulement on a l'Ancien Testament, mais on a le Nouveau Testament. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, Dieu nous parle. Dieu le Père nous parle. C'est un Dieu personnel. Nous croyons en un Dieu personnel. C'est énorme. Je veux dire, quand on regarde ce que ça veut dire, c'est nous croyons en un Dieu qui vraiment veut un contact avec nous, veut une relation avec nous. Et comment est-ce que nous entreprenons la relation avec Dieu? En écoutant sa parole et par la prière. C'est ce que dit Saint Jérôme. Dieu nous parle dans l'Écriture, nous lui répondons dans la prière. La prière, c'est la manière de répondre à un Dieu qui nous parle. Et nous croyons en la parole de Dieu. Hein? Vraiment, cette parole de Dieu qui s'est faite chair. Ça, je crois que c'est vraiment, c'est capital. Si on ne croit pas ça, tout le reste s'effondre. On croit en un Dieu, oui. Bon. Le grand horloger, comme disait, c'est Voltaire qui disait ça, le grand horloger. D'ailleurs, celui qui fait que tout marche bien. Il y a la pichenette, c'est le dieu des philosophes, la pichenette originelle, je ne sais pas si vous avez employé. Il a donné le coup d'envoi, et puis regarde comment ça se passe. Nous ne croyons pas en ce Dieu-là. Nous croyons en un Dieu qui nous interpelle, qui vient à notre rencontre. Déjà par les prophètes, et en ces temps qui sont les derniers, comme dit saint Paul, en Jésus-Christ. Ce n'est pas un Dieu justement qui nous regarde de là-haut, et puis voilà, et puis bon, on est une sorte de marionnette. Voilà. On est des marionnettes face à lui. Non, nous ne croyons pas en ça. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas le Dieu des chrétiens. C'est un autre Dieu, je ne sais pas lequel, mais ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Parce que c'est important de se rappeler de ça, de se dire que Dieu révèle son nom, il n'est pas une force anonyme. Hein. Il est capable d'être connu plus intimement et d'être appelé personnellement. C'est ce que dit le catéchisme au numéro 203. On peut l'appeler personnellement. On peut avoir un contact personnel avec lui. La personne est faite pour la personne, qu'elle soit humaine ou divine. On n'est pas fait pour un anonymat, on n'est pas fait pour un Dieu qui soit simplement horloger, qui soit, voilà, qui fait que tout marche bien. Quelque part, ça c'est très beau aussi, mais j'ai oublié son nom là. Le cardinal archevêque de. Il n'est pas cardinal malheureusement, mais l'archevêque de Malines-Bruxelles, Léonard, Monseigneur Léonard, a écrit un très très beau livre, Les raisons de croire. Les raisons de croire. Il a écrit un très beau livre. Et je l'ai entendu, moi j'étais très impacté, et il m'en faut pas mal parce que. Mais par. par la prédication d'un évêque, bon, c'est qu'on prêche soi-même, il en faut quand même une bonne dose ensuite pour être impacté. Donc du coup, par sa prédication à lui, parce qu'il disait au fond, nous croyons non seulement à un Dieu qui nous parle, mais croire à un Dieu qui existe et qui ne fait pas l'expérience du mal, quelque part, ça rend le mal plus scandaleux encore. Si on croit qu'il y a un Dieu qui agit, qui est tout-puissant et qui laisse le mal, sans faire lui-même l'expérience du mal, eh bien, évidemment, c'est de plus en plus scandaleux. On va de scandale en scandale. Et il ne faut pas oublier que le mal est source de déchristianisation, est source d'athéisme. Le fait que le mal existe, que la souffrance existe, forcément, ça entraîne les gens loin de Dieu. S'ils ne croient pas au Dieu de Jésus-Christ, qui lui-même, en Jésus-Christ, a expérimenté la souffrance et la mort. Nous croyons en un Dieu personnel. Oui, c'est pas simplement un Dieu père, mais un Dieu qui s'est fait proche en Jésus-Christ. Dieu le Père, sa dernière parole, sa première parole, c'était la création, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance, faisons les luminaires et compagnie, et sa dernière parole, c'est le Christ lui-même. Le Verbe s'est fait chair, la parole de Dieu s'est fait homme. Et du coup, en sa passion, nous avons un Dieu qui se fait encore plus proche. Mais il a fait l'expérience du mal, sans être l'auteur, évidemment. C'est très important, ça. Parce que sinon, on ne comprend rien à la foi chrétienne. On ne comprend rien du tout. On ne comprend rien à l'existence même de Dieu. Dieu, c'est au numéro 204, là. Dieu s'est révélé progressivement et sous divers noms à son peuple. Mais c'est la révélation du nom divin faite à Moïse dans la théophanie du buisson ardent. Vous vous rappelez le buisson ardent, au seuil de l'Exode et de l'alliance du Sinaï qui s'est avérée être la révélation fondamentale pour l'Ancienne et le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, c'est quelque part la révélation que Dieu a faite dans vous rappelez Moïse qui va faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian, païen, et qui tout d'un coup voit un buisson qui brûle sans se consumer. Il fait un détour, vous regarderez dans Exode, il fait un détour, et il voit ce buisson. Et deux buissons, il entend justement un appel. Il entend le nom de Dieu. Dis-moi ton nom. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire, on ne peut pas traduire parce que c'est pratiquement intraduisible. C'est-à-dire que vraiment, je suis le vivant. C'est un Dieu vivant. Et c'est vrai qu'une foi vivante, c'est une foi en un Dieu vivant. Vraiment un Dieu qui vit, qui nous interpelle, qui nous habite, qui nous... Alors, il nous interpelle. Ben moi, je n'ai jamais eu d'apparition, j'ai jamais eu de message, de locution intérieure, j'ai jamais eu de miracle, j'ai jamais rien vu. Il nous interpelle, mais dans la foi, nous pouvons le découvrir, ça. Justement, la foi nous permet d'adhérer à un Dieu vivant. Et ça, c'est une grâce. Ça, c'est une... Le numéro 205. Dieu appelle Moïse du milieu du buisson qui brûle sans se consumer. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu Dieu est le Dieu des pères, celui qui avait appelé et guidé les patriarches dans leur pérégrination. Il est le Dieu fidèle, compatissant, qui se souvient d'eux et de ses promesses. Il vient pour libérer leurs descendants de l'esclavage. Il est le Dieu par-delà l'espace et le temps, le peut et le veut, mettra toute sa puissance en œuvre pour ce dessein. Voilà, c'est vraiment, c'est le je suis le Dieu des vivants, je ne suis pas le Dieu des morts. C'est ce que dira Jésus quand il parlera de la résurrection. C'est le Dieu des vivants et qui aspire à ce que nous vivions de sa vie ici-bas dans la foi et dans l'au-delà, dans le face-à-face. C'est pour ça que nous croyons à la vie éternelle. On verra plus tard, ça fait partie du credo, mais c'est capital. De croire en la vie éternelle, ça change tout. Ça change tout. S'il n'y a pas, si c'est la fosse, mon avenir, si c'est simplement la tombe et la décomposition, mon avenir, mais il y a quoi ? Désespérer. Mais nous croyons que nous sommes appelés à contempler le visage de Dieu. Nous croyons que notre Père Jean, voilà, qui est parti hier, qui nous a laissé terrestre au fond, au plan terrestre, ben, nous croyons qu'il, surtout c'est un saint homme de Dieu, voilà, qu'il contemple le visage de Dieu. Qu'il est appelé en tout cas à le contempler, par grâce, par miséricorde. Il est appelé à une communion. Il a vécu dans la foi toute sa vie, et nous croyons qu'aujourd'hui, il le contemple face à face. La vie religieuse, par exemple, est très liée à ça, à la vie éternelle. Parce que la vie religieuse, c'est le signe. Justement, des hommes et des femmes qui ont fait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, sont signes du royaume. Comme des poteaux indicateurs, ils ne visent pas à eux-mêmes, ils visent à d'autres, à l'autre qui est le Christ lui-même et son Père. C'est pour ça que la mort pour nous ne nous fait pas peur, parce que la mort est une rencontre. Et je veux dire, c'est le moment le plus important de notre vie. Et c'est intéressant de voir qu'une société qui perd la foi, comme notre société occidentale, c'est une société qui met la mort de côté. Qui met la souffrance de côté, loin, on ne veut pas trop la voir. Allez, les hôpitaux, les hospices, etc. Bon, un peu à l'extérieur de la ville. Parce que ça nous rappelle notre finitude, notre humanité. Et c'est important, vous qui aussi avez eu charge, bon, plusieurs d'entre vous, comme mère de famille, d'éducation ou grand-mère, de parler de la mort. Et puis, quand il y a un départ, voilà, d'un membre de la famille, etc., ben, de ne pas avoir peur de montrer la mort. Parce que ça dit notre foi, la mort. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors, je suis celui qui suis. Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me disent, quel est ton nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et dit, voici que je dis, tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous, c'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. En révélant son nom mystérieux, YHWH, ce qu'on appelle le tétragramme, tétra c'est quatre, tétragramme, les quatre lettres, hein, qu'on ne prononce surtout pas Yahvé, parce que ça c'est imprononçable, justement, comme pour dire que le Dieu est tout autre. Je suis celui qui est, ou je suis celui qui suis, ou je suis qui je suis. Dieu dit qui il est, de quel nom on doit l'appeler. Le nom divin est mystérieux, comme Dieu est mystère. Il est tout à la fois un nom révélé et comme le refus d'un nom. Oui, c'est pas Paul, Maurice ou Marcel. Voilà, c'est un nom qui est un autre, qui est autre, parce que Dieu est tout autre. Hein? Donc il y a la transcendance de Dieu. On peut pas dire qui il est forcément. On approche, mais on peut pas dire qui il est, parce que ça reste un mystère. En Jésus, en Jésus-Christ se révèle, mais Dieu le Père reste tout autre. Dieu est esprit, donc nous n'avons pas accès à ces réalités, en tout cas de façon directe, si ce n'est par révélation. Et c'est par là même qu'il exprime le mieux Dieu comme ce qu'il est, infiniment au-dessus de tout ce que nous pouvons comprendre ou dire. Il est le Dieu caché. Son nom est ineffable, il est le Dieu qui se fait proche des hommes. Voilà, il y a à la fois, dans la foi chrétienne et judéo-chrétienne, pour le coup, à la fois l'idée d'un Dieu qui est transcendant, mais un Dieu qui est proche. Et puis, évidemment, le Dieu des chrétiens, on ne peut pas plus proche que le Dieu des chrétiens. Comme dit le grand saint Augustin, il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. C'est un Dieu qui est intime. Oui, nous croyons à la transcendance, mais nous croyons en un Dieu intime. Il est au milieu de vous, le royaume de Dieu. Ça change une vie. Au numéro 208. Devant la présence attirante et mystérieuse de Dieu, l'homme découvre sa petitesse. Devant le buisson ardent, Moïse ôte ses sandales et se voile le visage. Face à la sainteté divine, devant la gloire du Dieu trois fois saint, Isaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Devant les signes divins que Jésus accomplit, Pierre s'écrie « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Mais parce que Dieu est saint, il peut pardonner à l'homme qui se découvre pécheur devant lui. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint. Hein, osez. L'apôtre Jean dira de même, devant lui, nous apaiserons notre cœur. Si notre cœur venait à nous condamner, c'est car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Voilà, c'est à la fois, et déjà dans l'Ancien et dans le Nouveau, à la fois c'est un Dieu transcendant, mais c'est à la fois un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui est attentif à chacun. Et il ne faut pas perdre les deux dimensions, la transcendance et ce qu'on appelle l'immanence. Alors c'est un peu compliqué, il y a des mots comme ça un peu compliqués. L'immanence, immanere, manere, ça veut dire demeurer. Il demeure dans. C'est un Dieu qui demeure avec nous. Et en même temps, c'est un Dieu qui nous dépasse. C'est un Dieu qui voit la misère du peuple d'Israël en esclavage, avec Moïse, et en même temps, c'est un Dieu dont on ne peut pas dire le nom, YHWH, imprononçable. C'est un Dieu mystérieux. Il faut garder les deux. Hein, et évidemment, là, vous faites vous-même le lien avec les deux battants de la croix, le vertical et l'horizontal. Hein, le battant, le montant vertical qui rappelle la transcendance de Dieu, et le montant horizontal qui rappelle l'immanence de Dieu, un Dieu proche. Numéro 209, par respect pour sa sainteté, le peuple d'Israël ne prononce pas le nom de Dieu. Dans la lecture de l'Écriture sainte, le nom révélé est remplacé par le titre divin Seigneur, Adonai, en grec Kyrios. C'est sous ce titre que sera acclamé la divinité de Jésus, Jésus est Seigneur. Voilà, donc, voilà, c'est important de... parce qu'à à trop insister sur la présence de Dieu, sur sa proximité, il faut faire attention de ne pas en perdre la transcendance. Nous sommes créatures, il est créateur. Et donc, comme créature, l'humilité. Ensuite, c'est un Dieu qui est tendresse et pitié. Ça, c'est aussi un aspect qui est important. Après le péché d'Israël qui s'est détourné de Dieu pour le veau d'or, en Exode 32, Dieu écoute l'intercession de Moïse et accepte de marcher au milieu d'un peuple infidèle, manifestant ainsi son amour. À Moïse, qui demande de voir sa gloire, Dieu répond « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ou ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom, et le Seigneur passe devant Moïse et proclame le nom. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » Voilà, c'est ça aussi, ça c'est très important. Déjà dans l'Ancien Testament, on a cette révélation d'un Dieu amour, d'un Dieu proche, d'un Dieu miséricordieux. Parce que la toute-puissance sans la miséricorde, c'est écrasant. C'est décourageant. Numéro 211, le nom divin « Je suis » ou « Il est » exprime la fidélité de Dieu qui, malgré l'infidélité du péché des hommes et du châtiment qu'il mérite, garde sa grâce à des milliers. Dieu révèle ainsi qu'il est riche en miséricorde, Éphésiens 2.4, en allant jusqu'à donner son propre Fils. En donnant sa vie pour nous libérer du péché, Jésus révélera qu'il porte lui-même le nom divin. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Évidemment, ceux qui entendent ça ne peuvent pas ne pas faire le lien avec Moïse et le buisson ardent, c'est impossible. C'est-à-dire, quand on entend quelqu'un qui dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme c'est Daniel, c'est la vision, la théophanie de Daniel, vous saurez que je suis, c'est l'Exode et Jésus et Dieu qui parle à Moïse dans le buisson. Soit cet homme blasphème, soit c'est vrai. Soit c'est un fou, soit c'est Dieu. Il faut se prononcer face à Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent son Dieu. Mais bon, il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux psychiatriques aussi. Et donc du coup, qu'est-ce qui prouve que ça veut dire que c'est Dieu? En quoi, on verra plus tard, mais en quoi la personne de Jésus, nous pouvons adhérer comme... de façon certaine et sûre, comme à la présence de Dieu. Au numéro 214, Dieu, celui qui est, s'est révélé à Israël comme celui qui est riche en grâce et en fidélité. Ces deux termes expriment de façon condensée les richesses du nom divin. Dans toutes ses œuvres, Dieu montre sa bienveillance, sa bonté, sa grâce, son amour, mais aussi sa fiabilité, sa constance, sa fidélité, sa vérité. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, psaume. Il est la vérité, car Dieu est la lumière, et en lui point de ténèbres. Il est l'amour, comme dit l'apôtre Jean lui-même, donc en 1 Jean 4,8. Voilà, vérité et amour. Amour et vérité se rencontrent, c'est le psaume, mais ils se rencontrent en Dieu. C'est-à-dire, la vérité de nos vies est en Dieu. Et l'amour de nos vies est en Dieu. Même les amours humaines et les vérités humaines, ben, c'est en Dieu qu'on découvre leur plénitude. C'est là qu'on les comprend. Un amour d'époux, d'épouse, ben, c'est en Dieu que vous allez le retrouver quelque part, plénifié. Ça ne va pas s'opposer à votre amour d'épouse ou de mère ou de sœur ou de voilà ou d'amis. Tous les amours que nous avons vécus sur terre, en Dieu, eh bien, ils sont planifiés. Parce qu'il n'y a que l'amour qui rentre en Dieu. Nous croyons que notre Père Jean est rentré en Dieu avec tous les actes d'amour qu'il a posés dans sa vie. Et qu'il retrouve ses parents, il retrouve sa sœur qui est déjà précédée, c'est son frère jumeau qui est mort à l'âge de 7 ans. Enfin, tous les actes d'amour, mais on retrouve l'amour que l'on a, mais en Dieu. Alors, ici dans la foi, là-bas dans le face-à-face. C'est pour ça que saint Paul dit, il y a la foi, l'espérance, la charité, à la fin reste la charité. Et le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu d'amour. Parce que nous croyons en un Dieu qui est amour dans quand on dit Père, Fils et Saint-Esprit, dans sa relation, c'est amour, communion. Donc, forcément, les actes d'amour que nous posons, les relations d'amour que nous avons, eh bien, nous les retrouverons plénifiés en Dieu. Plénifiés et purifiés. Oui, c'est la grande différence avec les religions orientales, par exemple. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre les conversions au bouddhisme. Parce que c'est très, très différent. C'est pas un dieu personnel. Dans beaucoup de religions orientales, il y a l'idée de se fondre dans le grand tout. Nous disons non. Je vais comme personne humaine à la rencontre d'une personne divine. Et je reste personne humaine dans l'au-delà. Je me fonds pas dans le grand tout. Je vais avec mon humanité et jusqu'avec mon corps, on verra ça, la résurrection de la chair, jusqu'avec mon corps, je suis appelé dans toute mon humanité à partager l'être de Dieu. Mais comme personne, pas comme dissolution de moi-même en Dieu. Non, comme quand on met un peu de crème dans la soupe, ben voilà, ça se dissout dans l'ensemble de la soupe. Non, c'est pas ça, ça va pas être ça le royaume. Non, c'est pas intéressant, je veux dire, ça c'est... Mais on est appelé comme personne. Et donc, du coup, les actes qu'on aura posés, vraiment, on les retrouve. Aussi, c'est pour ça que la capacité d'amour, la capacité de connaître, c'est avec cette capacité-là que nous avons actuellement que nous contemplerons Dieu, c'est pas avec une autre. C'est pour ça que c'est important d'éduquer. Parce que l'éducation éclaire l'intelligence et le cœur. Alors chacun, il y en a qui sont plus ou moins doués, etc. Mais il y en a qui, au niveau du cœur, on voit bien Jean Vanier avec les personnes trisomiques, etc. Moi, je disais, voilà, ils comprennent avec le cœur, mais ils contempleront Dieu aussi avec leur cœur, leur capacité d'aimer. Peut-être qu'ils mettent pas beaucoup de concepts en ligne, mais avec leur cœur, nous croyons qu'ils contempleront Dieu. Comme dit la petite Thérèse, il n'y a qu'une vie pour vivre de foi. C'est pour ça que la foi, c'est capital. c'est central dans notre vie. Ça irrigue notre vie. Et en même temps, c'est une grâce. Il n'y a qu'une vie pour vivre deux fois. Alors on se dit pourquoi certains l'ont, d'autres l'ont pas, ça. Là, je sors le joker, parce que je ne sais pas trop quoi dire. C'est un don de Dieu, mais en même temps, voilà. Et en même temps, il y a des conversions, en même temps, il y a des... Donc Dieu est la vérité, le vérité, principe. Hein, 215, vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes justes jugements, le psaume. Oui, Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité. C'est pourquoi les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu est la vérité même, ses paroles ne peuvent tromper. Hein. Dieu qui ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Hein. C'est pourquoi on peut se livrer en toute confiance à la vérité et à la fidélité de sa parole en toutes choses. Le commencement du péché et la chute de l'homme fut un mensonge du tentateur qui induit à douter de la parole de Dieu et de sa bienveillance et de sa fidélité. Oui. La tentation, c'est de dire Dieu est l'ennemi. Je ne peux pas lui faire confiance. Sa volonté vient écraser ma volonté et ma liberté. Ça, c'est la tentation. Hein, c'est le mensonge. Vous pouvez manger d'aucun arbre du jardin. Et elle corrige, non, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire, on ne peut pas nous-mêmes déterminer ce qui est bien et mal, on l'accueille de la parole de Dieu. Voilà, la vérité. C'est pour ça que c'est important d'être en vérité face au Seigneur. C'est pour ça que la vérité, c'est quelque chose de capital. Je suis la vérité, le chemin, la vie. Voilà, paf. C'est particulier, quelqu'un qui se définit comme la vérité. Je suis la vérité. La vérité, pour nous, c'est une personne. Hein, comme je disais ce matin, j'ai dit, la paix, c'est une personne. C'est pas des concepts bien huilés entre eux. C'est une personne. Et puis Dieu est amour. Hein. Au cours du numéro du 118, au cours de son histoire, Israël a pu découvrir que Dieu n'avait qu'une raison de s'être révélé à lui et de l'avoir choisi parmi tous les peuples pour être à lui, son amour gratuit. Et Israël de comprendre, grâce à ses prophètes, c'est encore par amour que Dieu n'a cessé de le sauver et de lui pardonner son infidélité et ses péchés. Voilà. Et puis ce Dieu est amour que Saint Jean nous révélera. Voilà, c'est à la fois la vérité et à la fois l'amour. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. C'est le psaume. Et en Dieu, cela se réalise. Et puis, c'est le chemin pour notre vie. Pour ça que c'est important de se former dans sa foi. Hein, accrochez-vous un peu, parce que ça peut être un peu... Un peu compliqué là, voilà. C'est vrai que c'est peut-être moins fun que d'autres thèmes, etc. Mais en même temps, c'est, vous voyez, les conséquences sont considérables. Vous, la plupart d'entre vous, vous êtes mère de famille. De mettre au monde un enfant pour la vie éternelle ou de le mettre au monde pour la fosse, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Déjà, mon enfant, je le prépare à la vie éternelle. Déjà, il ne m'appartient plus. Et 221, mais saint Jean ira encore plus loin en affirmant « Dieu est amour, l'être même de Dieu est amour, en envoyant dans la plénitude des temps son Fils unique et l'Esprit d'amour, Dieu révèle son secret le plus intime, il est lui-même éternellement échange d'amour, Père, Fils et Esprit Saint, et il nous est destiné à y avoir part. » Il nous a destiné à y avoir part, hein, numéro 221. Voilà, donc on est appelé à cette grâce-là. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? C'était pas trop compliqué?
Non.
De ce matin, non?
Non, non.
Non, c'était pas très bas, c'était pas trop. Non, mais ça va, vous êtes bien élevé, c'est bien. Mais est-ce que.
Les autres n'ont pas la foi. C'est vrai que c'est un mystère, mais enfin, moi qui suis responsable de moindrie, etc., je me dis toujours est-ce que peut-être on ne sait pas, transmettre.
On ne sait pas pourquoi les autres n'ont pas la foi, est-ce qu'on ne sait pas transmettre. Comme la foi est de l'ordre de la grâce.
Oui, mais on donne pas envie, peut-être. Je sais pas comment.
Oui, mais on peut donner envie, mais le monde déjà est très séduisant. Peut-être plus. Par rapport à la croix, par rapport à la vie éternelle, on vous propose des plaisirs, des richesses, du pouvoir. Bon, voilà, c'est plus sexy, je vais dire, c'est plus voilà, c'est plus immédiat, c'est plus visible. Puis un âge, il y a aussi des âges.
Il y a des choses intimes. Je vois, j'ai deux petites filles. Il y en a une qui d'emblée accepte les choses de Dieu. Et l'autre, quand elle avait 4 ans, maintenant elle en a 8, j'avais emmené à la messe et au moment de l'Eucharistie. Je lui dis, enfin de l'élévation,
oui.
Je lui dis c'est Jésus. Et elle me dit, mais Mamétine, tu me racontes que des carabistouilles.
Ah oui, c'est ça, oui.
Ça veut dire qu'elle avait 4 ans. À 4 ans, elle n'avait pas la même.
Sensibilité, intériorité.
Sensibilité, alors qu'il n'y avait pas forcément. Voilà.
Ah oui. Vous voyez un bout de pain rond, vous dites c'est Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas là.
À ça, je lui ai dit après la messe, je lui ai dit, tu as raison de pouvoir dire ça, parce que je comprends ta question, comment on faire croire que Jésus, c'est un bout de pain.
Oui.
Et je lui ai répondu, mais ça, on nous l'a dit, et je le crois.
Oui, mais pourquoi je le crois? Alors, c'est ça, pourquoi est-ce que je le crois? Alors, parce que, ben, il s'est fait proche, parce qu'il s'est fait aussi notre pain, parce que, voilà, c'est la manne vers au désert. Je veux dire, le problème, c'est que ça demande du temps, la foi.
Elle avait
4 ans, la pauvre. On va peut-être lui épargner tout l'Ancien Testament, comme ça, lui balancer d'un seul coup, d'un seul. Mais c'est que ça demande du temps d'expliquer la foi. Pourquoi est-ce qu'on croit ce qu'on croit?
Et comment on peut expliquer vraiment que tout le monde n'a pas la grâce?
Alors, tout le monde a la. Alors, c'est, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. C'est vraiment mystérieux parce qu'on ne peut pas résoudre ça, la question de la foi, on ne peut pas la résoudre à la réduire, j'allais dire, à des questions psychologiques, parce qu'il y a des gens anxieux, il y a des gens bienveillants, il y a des gens confiants, il y a des gens optimistes, des gens pessimistes, il y a toutes les psychologies chez les croyants. Donc on ne peut pas résoudre ça, réduire ça à une psychologie, hein, ou réduire ça à une classe sociale, ou réduire ça à une culture. Il y a des gens voilà, de cultures extrêmement différentes qui ont la foi en Jésus. Et d'autres de cultures très semblables qui n'ont pas du tout la même foi. Pourtant, ils ont la même culture, voire la même éducation, ils ont été éduqués par les mêmes parents. Et c'est pas du tout pareil. Je pense que c'est vraiment à nous de prier, puis d'être témoin, d'être, bon, sans harceler, mais d'être témoin. Oui, rayonner, de dire que ça nous rend heureux, de dire bon, puis il croit qu'il veut. Hein. Jésus, tout le monde ne l'a pas cru. Hein. Donc il est normal que nous, tout le monde ne nous croit pas. A fortiori, j'allais dire. Jésus, tout le monde ne l'a pas cru.
Hein, c'est pas linéaire non plus.
C'est pas linéaire, c'est ça que vous dites, oui, c'est ça. C'est-à-dire que...
Tout le monde pas... a cru au départ, il n'aurait pas eu besoin de venir. Hein.
Oui, oui, oui. Mais linéaire, vous dites dans quel sens linéaire?
Ah oui,
ah oui, pour soi-même. On peut avoir un peu des crises de foi aussi, oui, c'est sûr. On peut avoir des hauts et des bas. Oui, bon. C'est vrai qu'il y a, bon, il y a des personnes qui reviennent à la foi. Il y a des personnes... Hein, moi, je fais beaucoup dans les préparations au mariage, par exemple. Et je vois, tiens, hier, sans plus parler, hier, une jeune femme, là, je la connais pas, elle me... Et puis elle me dit, voilà, au moment de fonder fonds foyer, puis finalement, pendant 4 ans, j'ai surtout tombé, etc. Et puis il y a eu la mort de mon parrain, je pense que c'est la mort de mon parrain et de sa fille, dans un accident de voiture, tous les deux sont morts. Ou le mari de sa marraine, ou un truc comme ça. Donc du coup, elle dit, du coup, ça a été tellement plein d'espérance, cette célébration, que ça m'a remis en cause, ça m'a retravaillé. Et moi, athée déterminé, comme ça, pendant 4 ans, je me dis, ça fait aucun sens, quoi. Et du coup, maintenant, elle se marie, elle dit, vers qui elle se tourne? Vers l'Église. Parce qu'elle dit, en dehors de l'Église, en termes de mariage, c'est plutôt pauvre, quoi. En termes de dimension transcendante et à la fois proche... Et du coup, elle dit, je veux me marier à l'église. Donc voilà, donc là, on prend les gens là où ils en sont. Hein. Mais moi, j'étais aumônier d'étudiants, on s'en fout royalement. La dernière des préoccupations, c'est la foi quand on est étudiant. C'est-à-dire, il y a l'insouciance, c'est la dépendance des parents, on quitte le foyer familial, on est dans une autre logique, et puis après, dès qu'on est jeune professionnel, on se pose d'autres questions. Puis... L'important, c'est de rejoindre ceux aussi qui sont là et qui sont en demande. Vous savez, qui demandent quelque chose, au moins. Oui ?
Je crois que pour la culture française, le cartésianisme n'aide pas
beaucoup. Non, le cartésianisme n'a pas aidé, parce que ça semait un soupçon. Un soupçon sur Dieu lui-même. Et ça, c'est de dire qu'au fond, n'est sûr que le fruit de mon intelligence. Et non, pas du tout. Et surtout que chez Descartes, il y a cette coupure, c'est ce qu'il a fait. Il faut faire tabula rasa, comme on dit en latin, table rase du passé. Faisons table rase du passé, commençons une ère nouvelle. C'est-à-dire, en termes de transmission, là je suis en train de lire un livre sur de François-Xavier Bellamy, Les déshérités. Sur l'éducation, ça, je vous le conseille. Justement, il explique ce que j'avais appris en philosophie, mais un Descartes, par exemple, a fait un tort considérable, parce qu'il y a une coupure dans la transmission. Il y a plusieurs coupures. Quand on dit l'échec de l'éducation, on dit non, c'est pas un échec, c'est un but, d'en arriver là où on en est. Donc, c'est parfaitement accompli. C'est un succès. Donc, c'est intéressant de savoir qu'au fond, l'éducation... Le fait au tout début du livre, il dit que il est professeur, ce garçon qui a 27 ans, 28 ans. Il est maire adjoint de Versailles, normalien, et il a voulu pour être professeur de lycée. Et il a fait l'IUFM, il y a la formation des professeurs, et l'inspecteur d'académie lui dit « Vous n'avez rien à transmettre ». Les professeurs partent avec. Vous n'avez rien. Bon, pourquoi est-ce qu'on est professeur? C'est comme je dis aux médecins, vous n'avez rien à guérir. Voilà. Bien sûr qu'on a à transmettre. Et déjà chacun, mais bon, comme professeur, quand même, encore plus, je veux dire, comme instituteur, comme enseignant, forcément. Il y a même des congrégations tellement c'est fort qui se sont formées, des congrégations enseignantes. Hein, commencer par les pères jésuites, et puis beaucoup, beaucoup les maristes, les marianistes, ensuite, chez les femmes, il y a pléthore de congrégations enseignantes. Parce que enseigner, c'est quelque chose d'énorme. C'est justement transmettre. Comme on transmet la vie par le corps, mais on transmet aussi une vie intellectuelle par l'enseignement. Et une vie de foi par l'enseignement. Fides ex auditu, dit Saint Paul, la foi vient de l'oreille. Hein, la foi rentre par l'oreille. C'est intéressant ça. L'oreille, c'est le sens du disciple. L'ouïe, c'est le sens du disciple. Il écoute. Voilà, c'est. D'où l'importance de donner à des personnes de faire des expériences, justement, des retraites, par exemple, ça me paraît, d'inviter à une retraite. Moi, je suis là où je suis parce que j'ai participé une fois à une retraite et ça a été déterminant dans ma vie. J'ai consacré ma vie à Dieu et je suis là devant vous aujourd'hui. Par exemple. Pour ça que moi, je crois que des lieux comme celui-ci et d'autres, hein, les foyers de charité, d'autres lieux de retraite, les bons, c'est très important parce que ça permet d'écouter quelque chose. Donc des personnes qui sont très loin de participer à une retraite, ça éveille leur... Ils entendent des choses qu'ils entendent nulle part ailleurs, quoi.
Il faut un bon prédicateur.
Oh oui, c'est sûr. Ben, comme pour être guéri, il vaut mieux un bon médecin qu'un mauvais, donc... Non, mais c'est vrai, il faut un bon prédicateur, mais bon. Voilà. On prêche des retraites, vraiment, on a un peu de charisme pour ça, mais bon, oui.
J'avais une question un peu précise sur le point 209, le fait que dans la Bible, on passe du tétragramme au Seigneur.
Oui.
Là, c'est dit, hein,
oui.
C'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on n'utilise pas du tout le tétragramme.
Non.
Le Seigneur.
Non.
D'après ce que je connais des Juifs, eux, utilisent
oui.
davantage le tétragramme.
Oui. Bah, parce que pour les Juifs, il n'y a pas eu la révélation du nom. Mmh. C'est-à-dire, en Jésus-Christ. De même, il n'y a pas de représentation pour le judaïsme comme dans l'islam. De ce point de vue-là, les deux religions sont très très proches. Hein. C'est les plus proches, du reste, certainement, que du christianisme. Le christianisme n'est pas une religion du livre. On dit les religions du livre, etc. Mais le christianisme est une religion d'une personne. Et donc, du coup, le fait de dire que Israël ne prononce pas le nom de Dieu parce qu'il n'a qu'un battant de la croix, je veux dire, il n'a qu'un montant, le montant vertical... Hein, de même dans l'islam, pareil, c'est le montant vertical, on se met à quatre pas devant Dieu, voilà, tac, c'est très beau, en même temps, c'est l'immanence, la transcendance. Par exemple. Mais ils ne peuvent pas dire, ils disent Adonai, etc., c'est, mais ensuite, dans le Nouveau Testament, on parle de Seigneur, donc c'est le fait de pouvoir appeler, donner à Dieu un nom pour... Pour des juifs, c'est l'abomination de la désolation, c'est un manque de respect, c'est du blasphème. Hein? Jésus a été condamné pour blasphémateur, cet homme blasphème. Hein? Détruisez ce temple, en trois jours je le relèverai. Hein? Quand vous lisez le récit de la Passion, c'est très clair. À un moment donné, on est face à une personne, alors pourquoi est-ce qu'on prend Jésus ? Mais parce que nul homme n'a parlé comme cet homme, et les actes qu'il a posés, qui nous sont retransmis par l'Évangile, eh bien, parlent à notre cœur. Donc, je veux dire, il y a quelque chose dans la personne du Christ qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Même chez un Gandhi, même chez des grands, un Confucius, etc. Confucius, mais très bien, mais ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, on peut nous dire le nom, alors que d'autres, ben, ils attendent encore. Et les Juifs attendent, et ils disent, ils appellent Adonai, etc. Dès qu'on voit le tétragramme, on saute, on dit Adonai. Parce que justement, ils n'ont pas la révélation du nom. Ils ne savent pas qui... Dieu reste complètement mystérieux, tout autre. Je ne sais pas si ça...
Et de ce fait-là, nous pouvons parler du Seigneur, même pour la première alliance.
Oui, voilà. Même pour la première... Oui, parce que c'est le Dieu d'Abraham... d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts.
Donc le Seigneur désigne à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Seigneur, quand on dit Seigneur, c'est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, et à la fois Seigneur en Jésus. Je veux dire, voilà. Dieu, le Verbe qui s'est fait chair, le Fils qui a pris notre humanité. Donc, quand on dit Seigneur, à la fois on fait le lien entre le Nouveau et l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, c'est à la fois c'est le tétragramme, mais à la fois c'est Jésus lui-même qu'on appelle Seigneur. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur, c'est Saint Paul, Saint Pierre qui, après la pêche miraculeuse, vous rappelez, etc. Il y avait la tempête, etc. Non, on n'est pas la tempête. Il avait pêché toute la nuit. Va aller l'appel des quatre disciples. Allez jeter vos péchés, etc. Mais nous avons pêché, Seigneur, toute la nuit. Ben, sur ta parole, je jetterai mes filets. Et hop, il ramène. Les filets étaient tellement plats qu'il fallait deux barques. Éloigne-toi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. Il reconnaît la divinité dans l'humanité. Mais c'est le même. C'est pour ça, parce que nous, on est beaucoup coupés de la culture juive. Ce qui est dommage, moi le premier. Hein, parce qu'on ne comprend pas la moitié de l'évangile. Oui, oui.
Et pourquoi elle dit « Éloigne-toi, Seigneur » ?
Parce qu'elle a l'impression d'être créature face à Dieu. Je veux dire, comme, qui peut dire à un homme de métier comme Pierre, qui connaît son métier, qui est un homme déjà mûr, qui a fait 30 ans qu'il pêche, qui connaît le lac comme sa poche, va là et jette les filets. Et que les filets reviennent alors qu'il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Qui peut dire ça? Dieu. Point. Donc face à Dieu, évidemment, on a comme une... C'est ce qu'on appelle le don de crainte. Le don de crainte, ce n'est pas la peur, c'est la transcendance. Ben, on est créature. Ben, même la très sainte Vierge, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ben, même la très sainte Vierge, qui est sans péché, ben, elle-même, face à la présence de l'ange, ça doit être dépoté. Je veux dire, un ange qui vous apparaît, ça doit quand même, à mon avis... on est dans une autre dimension, quoi. Dans une autre, tout à fait autre dimension. Donc, voilà, une présence de Dieu. Et c'est vrai que parfois, nous, dans nos vies, on a des expériences du Seigneur, non pas de choses... Bon, il y a des mystiques, c'est-à-dire notre Père l'ami, notre fondateur, par exemple, est un mystique qui a vu la très sainte Vierge, qui a vu son ange gardien, qui a vu Jésus, qui a vu le démon, etc. Bon, comme je vous vois, bon, ça, c'est les mystiques, ça, c'est ce qu'on appelle les révélations privées. Bon. Mais, nous, sinon, on voit Dieu dans la foi, quoi. Mais parfois, il nous apparaît clairement. La présence de Dieu s'impose à nous. Je veux dire, ça, c'est de Dieu.
Mais c'est terrifiant, les gens qui ne croient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Peut-être eux sont terrifiés par nous, donc ils croyant. Faites marrer. Vous avez des gens qui ne croient pas, c'est terrifiant. Oui, disons, c'est désespérant, mais maintenant. Non. Et surtout qu'il est impossible de prouver le néant. C'est-à-dire, il est impossible de dire que Dieu n'existe pas. Parce que. Oui, d'accord. Puis non, mais c'est impossible de dire quelque chose n'existe pas. C'est impossible de le prouver. Comment vous voulez prouver que quelque chose n'existe pas? C'est impossible. Donc ils sont quand même dans. Alors, soit ils se posent pas du tout de questions. Ben voilà, mangeons, buvons et mourons. À un moment donné, arrivé à un certain âge, etc. Bon, ben du coup. On se pose des questions, ou des événements de la vie, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de chacun non plus. Pour ça, il faut rester vraiment humble et puis prier.
On constate quand même que, voilà, cette année, j'ai inscrit tous les collèges de Compiègne,
10 sixièmes. 10 sixièmes pour les collèges de Compiègne, les collèges publics. Bah, 10, voilà, 10 pour je ne sais pas combien de centaines de sixièmes il y a plus de 10 en sixièmes, j'imagine, dans les collèges publics de Compiègne, mais bon, voilà, vous avez écrit 10, bah, inscrit 10. Bon, comme si la foi, quelque part. Mais ça, c'est vraiment. Il va falloir que ça change, je veux dire, quelque part, on ne peut pas vivre que pour le matériel. Mais parfois, c'est des grandes fractures, malheureusement, souvent douloureuses dans notre vie ou dans les sociétés, qui font prendre conscience. Ben, on ne peut pas continuer comme ça. Ah ben non. Là, je voyais là, sur Facebook, là, je regardais ce matin, etc. Ben, le fait de distribuer ne serait-ce qu'un tract invitant à l'aumônerie, il y avait les syndicats de professeurs. Normalement, c'est la loi qui prévoit ça. Et la loi prévoit d'inviter à l'aumônerie et que c'est prévu, surtout s'il y a un internat. C'est la loi qui le permet. Et bon, du coup, voilà. Et du coup, les professeurs, les parents d'élèves, etc., sont élevés. Comment est-ce qu'on va inviter à l'aumônerie? Et donc, il y a un article de la Croix qui sort aujourd'hui. À l'aumônerie. Des gens qui s'insurgent contre ça. Voilà. C'est pour ça que Mais bon, c'est là où il y a là une forme de confiance aussi. De dire, nous vivons un peu ce vide spirituel qui est quand même un drame et qui est une grande désespérance. Et une société qui n'a plus d'espérance, c'est une société qui devient tôt ou tard violente.
Ah oui. C'est sûr.
Ah ben, c'est sûr. S'il n'y a plus d'espérance. Ben, prenons les armes citoyens, je veux dire. S'il n'y a plus d'espérance. Le manque d'espérance chrétienne fait que progressivement, mais il y a une violence avec l'euthanasie, il y a une violence avec les fins de vie, le début de vie, etc. Tout ça, ça commence comme ça, le suicide assisté, tout le travail. Bon, il y a une violence. Qu'est-ce que vous voulez? Quelque part, c'est logique. Il n'y a rien après. Il n'y a rien.
Comment garder l'espérance? Je trouve que pour nos enfants ou nos petits-enfants être à la fois lucides et dire c'est pas la fin. Il faut que tu gardes l'espérance et que. Et toi,
c'est
aussi.
Oui, mais voilà.
C'est très difficile.
Oui, c'est pas facile. Maintenant, c'est pas facile de ne pas avoir d'espérance. D'être désespéré, c'est pas facile. C'est quelque part encore plus difficile. Donc, moi, je pense que. Voilà, d'où l'importance de travailler sur notre foi. Alors, il faut vous accrocher un peu, là. J'essaie de transmettre du mieux que je peux, sur le credo, etc., c'est capital, c'est central dans notre foi.
Merci de nous l'avoir proposé pour cette
année. Ou vous l'avoir imposé.
Peut-être aussi.
Si, donc voilà. Mais écoutez, on va terminer par un petit chant.